When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
This episode is brought to you by Bumble. So you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Bonjour à tous, je suis Alice Vacher et je vous souhaite la bienvenue dans l'Empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'Empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Régis Koenig, le directeur de la durabilité de Fnac Darty, le leader européen de la distribution omnicanal. Salut Régis, je suis ravie. J'ai réussi cette intro que j'ai dû refaire quand même plusieurs fois.
Hein. Ouais, félicitations, c'est un bon démarrage en tout cas.
Bon, du coup, on va parler durabilité.
J'espère.
On va parler Fnac Darty. Tu l'espères aussi quand même.
J'espère aussi. Ouais.
Mais aussi, j'ai envie de parler de toi. Tu me disais que ça faisait quand même 15 ans, c'est ça, que tu étais chez...
Ah, ça fait 15 ans, je suis rentré, même plus hein, maintenant. Je suis rentré en juin 2005 chez Fnac Darty pour m'occuper, du SAV. La mise en place des centres d'appel. À l'époque, quand tu décrochais ton téléphone, ton lavage était en panne, tu tombais dans le SAV du coin. Depuis, tout a changé. C'est-à-dire que maintenant, tu peux faire de la visio, tu as des gens qui ont des bases de connaissances pour t'aider. On peut même prendre contrôle à distance de ta télé ou de ton ordinateur à distance. Du coup, je suis rentré en 2005, tout ça n'existait pas. Donc, on a mis tout ça en place. J'ai fait encore plein d'autres choses chez Darty.
Et la durabilité, comment c'est arrivé du coup à toi? Est-ce que c'était une volonté de ta part d'accéder à ce poste parce que tu as des convictions personnelles en matière d'écologie ou finalement c'est...
Je dirais que c'est un peu des deux. C'est parce qu'au moment de la fusion de Fnac et Darty en 2017, on m'a confié une nouvelle direction qui était la direction de la politique service avec la mission de réfléchir aux moyens en fait, de différencier le groupe Fnac Darty sur le marché. Parce qu'on peut faire la concurrence avec le prix, avec la rapidité de la livraison, avec pas mal de choses finalement, l'offre produit. Mais on m'a demandé de réfléchir à qu'est-ce qui vraiment définit le groupe Fnac Darty, qu'est-ce qui fait vraiment la différence. J'ai poussé avec mon équipe, on a posé nos convictions.
Alors moi, j'avais la raison d'être.
La raison d'être, un petit peu.
C'est la raison d'être. Oui.
Et on a un peu travaillé là-dessus. Et en fait, il est ressorti avec les gens qui étaient autour de moi. Une chose importante, c'est qu'on avait tous des enfants et qu'en 2050, on parle de réchauffement climatique, mais en 2050, nos enfants, ils auront notre âge. On s'est dit, ce serait quand même pas mal qu'on fasse quelque chose à propos de ça. Et puis, en même temps, quand on regarde un peu l'histoire de Darty, l'histoire de Fnac, on a deux trucs qui sont incroyables. Côté Darty, c'est le SAV. Le SAV Darty, tout le monde connaît ça. Et côté Fnac, c'est le Labo Fnac. Cette notion de tester les produits de manière indépendante, de donner l'accès à l'innovation à tout le monde. Et finalement, Fnac Darty, c'était presque assez naturel. C'est comment est-ce qu'on fait pour donner du conseil aux clients sur le SAV, quoi. Voilà. Et en fait, en tirant ce fil-là, on s'est dit, on a aujourd'hui 2000 techniciens, 2500 techniciens, ils réparent des produits tous les jours. Du coup, on a accès à une quantité d'informations incroyable sur, on sait quel produit tombe en panne en fait. Si vous demandez à un technicien c'est quoi le produit le plus fiable, il va vous répondre. C'est quoi le produit le plus réparable, il va vous répondre. Et si on associe ça en fait à cette culture de la Fnac, qu'avait la Fnac, du conseil indépendant, de ok, on dit les choses même si ça ne sert pas les intérêts commerciaux et tout, et ça c'était l'essence même du Labo Fnac, en fait ça donne cette notion de dire on pourrait donner de l'information au grand public sur la fiabilité comparée des appareils, quels sont les appareils qui durent le plus longtemps, etc. Et ça a un réel impact sur le climat. En fait.
D'où l'indice de réparabilité ?
Avant même l'indice de réparabilité, il y a le baromètre du SAV. C'est la première chose qu'on a fait. C'est en 2018, en juin 2018. On s'est dit, bon, ben voilà, on a toutes ces données de produits qui tombent en panne. Donc, on sait les produits qu'on vend. Ben, pourquoi est-ce qu'ils tombent en panne ? Quelles sont les marques les plus fiables ? Et ben, on va rendre ça public. Et donc, on avait convoqué la presse, convoqué
le ministère,
etc. Et les
marques étaient d'accord,
etc. On ne les a pas prévenus. Ça nous a valu quelques petits coups de fil après. Mais d'ailleurs, je m'excuse auprès d'elle. Hein,
si vous nous écoutez.
Et depuis, du coup, mais c'était aussi important. Quelque part, on ne s'en serait probablement pas allé aussi loin si on avait averti, demandé l'avis de tout le monde au préalable. Et quelque part, on a mis le pied dans la porte. On a montré ces données-là pour la première fois. Et on était très modeste. Hein, c'est-à-dire qu'on a donné, par exemple, les trois meilleures marques par ordre alphabétique sur 15 catégories de produits. C'était pas quelque chose de révolutionnaire, mais c'était unique et pour la première fois que quelqu'un faisait ça au monde.
Donc le groupe a pu en fait mettre le doigt sur l'obsolescence programmée de certains produits.
On a mis d'abord le doigt sur les marques qui avaient fait le plus d'efforts sur la fiabilité de leurs appareils. C'était ça d'abord l'intérêt. Et donc, du coup, les appareils qui tombent le moins en panne, les appareils que durent plus longtemps. C'est une question que tout le monde se pose. Hein. Quand vous achetez un lave-linge, un frigo, un ordinateur, ben, ce que vous cherchez d'abord, c'est quelque chose qui ne va pas tomber en panne. Vous n'allez pas être embêté. Donc, en fait, ça, c'est une vraie réponse à une attente des clients. Et on a été, je disais, mais dans ce premier baromètre, assez modeste. Et du coup, quand on l'a présenté aux marques, ils ont dit « Oui, mais pourquoi j'y suis pas ?» dans le podium des trois.
Donc, ah, donc certains ont bien pris finalement ce baromètre en disant « Mais moi, je veux progresser. »
Bah tous. C'est-à-dire qu'ils sont tous venus nous voir en disant « Mais comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer ? C'est super, ces données.
Génial.
C'est la première fois qu'on peut comparer les marques entre elles. » Parce que finalement, chaque marque voit à peu près la fiabilité de ses produits à elle. Par contre, elle ne sait pas la comparer avec les autres marques. Et on a ce rôle un peu incroyable chez Fnac Darty, où comme on a des techniciens, des réparateurs, on fait à la fois la vente et la prévente. Et donc, du coup, ça permet de dire, on a vendu 100 produits, sur ces 100 produits, il y en a combien qui sont tombés en panne, et on peut faire ça pour toutes les marques. Et donc, on est un peu dans une... Je crois qu'il y a 3 ou 4 distributeurs au monde qui ont cette capacité-là à avoir à la fois la vente et la prévente. Et donc, du coup, on est les seuls, finalement, à pouvoir comparer la fiabilité des marques entre elles. Et ça donne des choses assez étonnantes, parce qu'il y a des marques qui pensaient être très, très fortes et qui se sont rendues compte que, en fait, non, pas tant que ça. Si on comparait à d'autres marques qu'on pourrait plus croire plus entrée de gamme, etc. Et résultat, tout le monde a trouvé toutes ces données hyper intéressantes, sont venus nous voir, ont voulu ceux qui étaient quatrièmes, par exemple, et qu'on m'avait pénalisé trop bien. Pourquoi vous ne mettez pas les quatrièmes? Ceux qui étaient sur des catégories de produits différentes, dites aussi sur ma catégorie de produits. Ce qui fait qu'on le fait tous les ans, ce baromètre, maintenant. La dernière fois, c'était l'année dernière. On est passé de 15 à 63 catégories. On a avant publié les trois meilleures marques. Maintenant, on publie toutes les marques qui sont au-dessus de la moyenne avec le détail de tous les scores. Et donc, c'est une quantité d'informations qui est très, très utile au marché, très utile aux marques, pour qu'elle puisse progresser.
Mais est-ce que Fnac Darty peut mettre un veto sur certaines marques que le groupe juge justement pas de bonne qualité et trop néfaste pour l'environnement ? C'est-à-dire que si ça tombe en panne tout de suite, est-ce que Fnac Darty peut mettre des veto sur certaines marques ?
Alors, on ne l'a pas encore fait, ça. On n'a encore pas banni de marque, parce qu'on estime que ce n'est pas trop notre rôle de...
Mais par contre, vous avez donné l'information en toute transparence.
Exactement. Ce n'est pas notre rôle d'être les censeurs là-dessus. Ce qu'on fait, en revanche, c'est que certains produits, on sait qui ont des problèmes de fiabilité très sec, on les arrête. Vous les trouvez plus dans nos magasins. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ce produit-là, c'est pas un produit où on rend service à personne.
C'est un produit qu'on va bannir, mais pas une marque complètement.
Pas forcément. Alors, il y a des marques qu'on référence pas du tout parce que, par exemple, elles ne sont pas suffisamment présentes, elles n'ont pas suffisamment de services après-vente disponibles. Donc, on ne les référence pas. Mais les marques qu'on a, on n'a pas eu cette expérience encore ou ce cas de figure où on a été obligé d'aller jusqu'à bannir une marque complète. On le fait produit par produit. On fait des retours aux marques. En général, ils prennent le retour, ils sont très intéressés et ils s'améliorent. C'est quand même ça qu'on cherche. Parce que si on commence à bannir, les gens, on n'aura plus de visibilité. Et c'est finalement, dans un an, s'ils ont progressé, on ne le verra pas.
Voilà. Et à l'inverse, est-ce que Fnac Darty peut justement essayer de valoriser certaines jeunes marques éco-responsables et les distribuer ?
Alors oui, évidemment. Donc, ça fait partie aussi de comment, de toutes les actions qu'on peut mener. Et c'est pas toujours facile hein, pour distribuer des marques ou mettre en avant si ce n'est distribuer, parce que des fois on se heurte. Il y a une société qui s'appelle Keep It qui fait une super bouilloire. Je profite pas, mais qu'on ne distribue pas. Et parce qu'ils ont une capacité de production très très limitée. Donc vous pouvez aller acheter une bouilloire Keep It. J'espère qu'on la distribuera dans les magasins. Mais aujourd'hui, ils ont plus de commandes.
Ils sont en précommande.
Voilà.
Ah, c'est génial.
Ils ont plus de commandes que de capacité à produire, ce qui montre qu'il y a un vrai enthousiasme hein, des Français.
Et qu'il n'y a pas de stock. Et justement, précommande pour Fnac Darty ou jamais sur certains produits, ça passe par les marques. Le service de précommande, est-ce que ce serait possible pour un groupe comme Fnac Darty de précommander des produits?
Ah ben, on fait tous les jours des précommandes. Vous pouvez précommander le nouvel iPhone, le nouvel PlayStation. Donc, évidemment, on travaille là-dessus. Après, par exemple, vous voulez mettre juste un seul produit dans chacun de nos magasins, il faut déjà en avoir 800. Voilà. Donc, si vous voulez avoir plus qu'un, c'est beaucoup. Donc pour travailler avec nous...
Ça reste compliqué.
Voilà, c'est difficile dans le circuit de distribution classique, mais on a des moyens pour ça. On a une place de marché, une marketplace, où on essaie de mettre en avant les marques les plus responsables. On a des partenariats avec des médias, par exemple, pour parler, pour faire les prix de l'innovation durable. Ce ne sont pas forcément des produits qui sont très connus, etc., et qu'on met en avant pour justement promouvoir cette innovation du produit. Et aussi, on a aussi toutes les grandes marques bien connues qui font un travail assez incroyable de fond pour améliorer la durabilité de leurs appareils. Et c'est un phénomène qu'on voit s'accélérer depuis 2018.
Et parle-moi de l'indice de réparabilité, justement, qu'on a évoqué brièvement.
Alors, l'indice de réparabilité, je ne sais pas si tout le monde connaît ça. C'est nouveau, d'accord ? C'est un indice qui est maintenant obligatoire sur 4 catégories de produits, donc sur les lave-linges, sur les télés, sur les ordinateurs et sur les téléphones portables. Vous verrez dans nos magasins, si vous allez dans le magasin Fnac, le magasin Darty, vous verrez un nouvel indice, c'est une note entre 0 et 10, qui note la réparabilité des appareils. Et cet indice-là, donc, il a plusieurs critères pour calculer cette note, hein, meilleure est la note, meilleur plus le produit réparable, et on tient compte pour calculer cette note de l'accès à la documentation, le fait que les pièces détachées soient disponibles, le prix des pièces détachées, c'est aussi quelque chose d'important, puis aussi, c'est aussi important, le fait qu'on puisse bien démonter l'appareil, qu'on puisse bien le remonter. Alors, donc ça, c'est un indice qui a été créé par la France, qui est obligatoire. Du coup, si vous voulez vendre des produits en France, il faut qu'il y ait un indice de réparabilité sur ces produits, sur les familles de produits dont on parlait. Et cet indice-là, en fait, on est assez content de sa mise en place parce qu'il s'inspire d'un indice de réparabilité qu'on a initié avec le Labo Fnac en 2018, où on s'est dit, ce qu'on disait au début de notre discussion, le meilleur du Labo Fnac, du conseil et des techniciens Darty, en fait, on est capable d'évaluer la réparabilité. Si vous demandez à un technicien, il sait vous dire, ce produit-là, il est plus réparable que celui-là. Mmh. Et donc, on s'est dit, on pourrait faire au sein du Labo Fnac cette note de réparabilité. Et on a demandé, du coup, à des ONG, il y avait les Amis de la Terre, Alta l'Obsessence Programmée, il y avait l'ADEME aussi, le ministère, des constructeurs avec nous. Et on s'est réunis, on a brainstormé un petit peu, on s'est dit, on va faire un indice de réparabilité au Labo Fnac. Donc, qui était sur les ordinateurs. On a testé une centaine, 100, 150 ordinateurs sur cet indice de réparabilité. Et du coup, le ministère et les pouvoirs publics se sont inspirés de cet indice pour créer cet indice réglementaire maintenant qui va être, j'espère, très rapidement généralisé à toutes les catégories de produits.
C'est bien parce que je trouve que c'est à la fois inclusif puisque ça permet de ne pas devoir racheter du matériel pour certaines familles qui n'ont pas forcément les ressources et puis durable, éco-responsable. Donc, c'est plutôt un bel indice. Et aujourd'hui, quels sont les plus gros challenges pour Fnac Darty en matière de RSE?
Le plus gros challenge, l'impact environnemental de nos activités, comme beaucoup de distributeurs, c'est lié aux produits qu'on vend. On évalue, c'est entre 80 et 99% les émissions CO2 sont liées aux produits, à la qualité, à la durabilité, à la consommation énergétique des produits qu'on vend, et qu'il n'y a que entre 1 et 10% qui est lié à nos activités propres, l'électricité qu'on a besoin dans nos magasins, les services de livraison, même l'approvisionnement.
Et puis j'imagine que c'est davantage optimisé maintenant, vous essayez tous de tirer vers l'éco-responsable.
Oui, on tire tout ça, mais...
Vers le durable.
Toutes nos opérations, on traite les déchets, on a beaucoup de choses, mais...
J'ai l'impression qu'en interne, les entreprises agissent.
On a mis beaucoup d'actions en place, on pilote nos émissions de CO2 en propre, avec des ambitions assez fortes. Mais quelque part, quand on fait ça, on traite que 10% du problème. En fait,
90% c'est intéressant de le dire. Voilà, c'est intéressant parce que souvent, les entreprises arrivent et me parlent de tous leurs plans en interne en matière de RSE, sauf que finalement, c'est dans leur activité que c'est le plus impactant.
Voilà, exactement. Et donc, quand on traite le sujet de la durabilité des produits, en fait, on s'intéresse au cœur du problème. Pour donner un exemple, la durée d'usage moyen d'un lave-linge, d'un appareil de gros électroménager, on va dire, c'est 7-8 ans à peu près. Hein. Donc, en moyenne, les gens gardent leur appareil 7-8 ans. Ça veut dire qu'au bout de 7-8 ans, ils les jettent, ils les remplacent. Bon. Et dans 80% ou dans 60% des cas, ils changent d'appareil parce que l'ancien est tombé en panne. Bon. Si maintenant on arrivait à prolonger juste un an cette durée, passer de 7 à 8, en fait, on diminuerait de 15% le nombre de déchets électroménagers qu'on jette. Si on augmente de 2 ans, on diminue de 30%. Vous rendez compte, 30% de déchets électroménagers en moins, 30% de lave-linge en moins qui sont fabriqués. Ça veut dire très clairement qu'il y a un moyen assez simple de diminuer l'impact écologique. C'est d'allonger la durée de vie des produits. Parce qu'allonger d'un an, c'est 15% de déchets en moins et 15% de CO2 en moins.
Et quid de réutiliser ces déchets électroménagers, justement pour reproduire de nouveau
Alors ça, c'est l'étape d'après. L'étape d'après, c'est que...
Le reuse, c'est quand même vraiment au centre aussi de tous les enjeux aujourd'hui.
Le reuse, il y a plusieurs choses. Il faut, pour bien comprendre, en fait, moi j'aime bien ce terme, c'est les anglo-saxons qui utilisent ça, c'est la préservation de la valeur. C'est finalement, plus on arrive à garder un produit fini entier, moins on a un impact écologique parce qu'on garde la valeur qu'on a créée dedans. Donc en fait, par exemple, si votre lave-linge il fonctionne encore et vous lui donnez une seconde vie, ou votre téléphone il fonctionne encore, vous lui donnez une seconde vie, finalement vous ne détruisez pas de valeur puisqu'il reste entier, il reste...
Quelle seconde vie on va lui donner ?
Voilà. Par contre, vous pouvez lui donner une seconde vie, par exemple, vous pouvez le revendre. Nous, on a racheté une société qui s'appelle WeFix, qui fait du reconditionnement de smartphone, qui fait la réparation de smartphone. Ils peuvent vous racheter votre smartphone et ils vont le reconditionner et le revendre. Et du coup, il va avoir un deuxième usage. Vous pouvez aussi donner votre téléphone à votre petit frère, qui va avoir une seconde vie. Voyez
mais s'il est complètement cassé, comment on fait ?
Alors, s'il est cassé, vous pouvez le réparer et avoir une seconde vie. C'est possible aussi.
C'est vraiment la réparabilité qui est...
Et donc, la réparation, et globalement, le fait de vouloir allonger la durée de vie des appareils, ça a un énorme impact. Maintenant, au bout d'un moment, tout a une fin quand même. Donc après, il y a l'étape d'après. C'est le recyclage, effectivement. On est aujourd'hui, nous, historiquement, le premier collecteur de déchets électroménagers aussi. Et donc, on a un partenaire qui s'appelle Ecosystem, qui recycle, qui du coup réinjecte de la matière première. Donc, tout votre lave-linge est déchiqueté, votre téléphone est déchiqueté, les trucs sont isolés, puis on refabrique des nouveaux produits avec ça. Mais finalement, quelque part, on récupère de l'acier, du plastique, etc., des matières premières. Mais on détruit énormément de valeur. C'est-à-dire toute la valeur qui a été pour créer l'objet est finalement détruite pour recréer des nouveaux objets. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, une échelle entre ces deux. C'est un, le mieux, c'est de garder l'appareil le plus longtemps possible. S'il fonctionne encore, lui donner une seconde vie. Le réparer pour lui donner éventuellement une seconde vie. Puis après, on peut ne pas le déchiqueter complètement. On peut, par exemple, garder certaines pièces détachées pour réutiliser ces pièces détachées dans des autres appareils.
Et puis, tu me parles de plastique, en plus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi moyen de limiter ce matériau qui n'est pas hyper noble?
Le plastique n'est pas hyper noble, mais est quand même très pratique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses où je ne sais pas trop comment, aujourd'hui, en tout cas, compte tenu de la technologie, compte tenu des normes sanitaires également, permettrait de se passer de plastique, si on se dit clairement les choses. Par contre, se pose la question de la recyclabilité du plastique, le fait aussi de garder la même performance technique du plastique. Si votre plastique, vous pouvez fabriquer des biberons avec, est-ce que du plastique recyclé, vous pouvez fabriquer toujours des biberons? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et je pense, en tout cas, je suis persuadé qu'il y a énormément de recherche et développement et de travail à faire dans les années à venir pour faire ce qu'on appelle de l'éco-conception. C'est-à-dire que dès le début, les produits soient conçus pour avoir une vie d'abord la plus longue possible. Donc, on se parle de réparabilité, on se parle de durabilité, puisqu'il ne faut pas que les produits tombent en panne non plus. Quand ils arrivent en fin de vie, qu'on puisse le plus facilement possible récupérer les matières premières, récupérer des pièces pour reconstruire de nouveaux produits sans passer par l'étape déchet, sans passer par cette étape où on déchiquette tout pour créer juste des matières premières qu'on recrée. Et ça, il y a tout un pan, et il y a beaucoup de travaux qui sont menés là-dessus en France, mais aussi au niveau européen, au niveau mondial, sur l'éco-conception des produits, et les grandes marques s'y mettent aussi. Si on voit, que ce soit dans les smartphones ou dans les lave-linges, tous nos partenaires industriels ont maintenant ce sujet-là au cœur de leurs préoccupations et travaillent d'arrache-pied pour que de plus en plus leurs produits soient éco-conçus et finalement le moins d'impact sur la planète possible.
Et est-ce que tu crois dans le service de location de certains objets justement qui pourraient être bénéfiques aussi pour la durabilité?
Alors, la location, oui.
Et même l'inclusion, parce que finalement, certains ne peuvent pas posséder complètement des appareils.
Alors, c'est un sujet sur lequel il faut faire attention. C'est-à-dire que il y a un aspect usage, par exemple, quand on pourrait dire on peut louer un appareil. Et en fait, ce n'est pas la location. Ce que je veux dire, si on reprend ce qui est important, c'est l'économie de la fonctionnalité, plus que la location. Parce que la location, il y a cette idée de j'ai un produit et je le loue pendant longtemps. Et finalement, c'est comme si je le possédais, mais au lieu de l'acheter, je le loue. Voilà, pour faire court. Alors que l'économie de la fonctionnalité, c'est un peu plus que ça. C'est que j'ai un produit, je paye un montant pour une utilisation. Voilà. Donc, par exemple, on peut prendre des utilisateurs professionnels, des graphistes, des gens qui font de l'audio. Ils peuvent éventuellement avoir besoin toujours du dernier ordinateur en pointe. Donc, par exemple, pour ces gens-là, on a développé un service qu'on appelle location longue durée, qui est finalement, au lieu d'acheter le produit, vous le payez pendant 12 mois à une mensualité, mais le produit ne vous appartient pas et au bout de 12 mois, vous le rendez et on vous donne le nouveau modèle. L'avantage de ça, c'est que votre ancien produit, nous, on va s'occuper de le reconditionner, lui donner une seconde vie. Alors que sinon, vous avez tout à vous débrouiller vous-même et ça vous coûtera moins cher, si vous faites ça, que d'acheter un nouveau produit tous les jours. De la même manière, donc, c'est des choses qui sont assez évidentes aussi sur des produits comme les smartphones, sur la mobilité électrique ou si on utilise son vélo tous les jours, on a peut-être besoin de le changer tous les ans. Ça, c'est un pan d'utilisation. Il y a un autre pan qui est des produits qu'on n'a pas eu besoin d'utiliser tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de posséder. J'ai une perceuse. Moi, j'utilise ma perceuse, deux fois par an.
Moi, je ne sais même plus si j'ai une perceuse, pour tout dire. Tellement je l'utilise.
Et donc, voilà.
Je vais aller regarder ce soir et je vais percer. Je pense que les voisins vont adorer.
Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des services où on paye juste la perceuse, le temps dont on a besoin mais on a bien, deux choses. Les produits qu'on a besoin chez nous pour un usage quotidien et qu'on utilise tout le temps, ton frigo par exemple, tu l'utilises tout le temps. Donc, louer ton frigo, si tu as l'intention de le garder 4 ou 5 ans, économiquement, ça n'a pas de sens. Si tu as un problème pour le financer, pourquoi pas,
un
frigo.
Ça, c'est plutôt du financement.
On est plutôt sur du financement. Ouais, tu vois, par contre, si tu as l'intention de déménager tous les ans, dans ce cas-là, tu n'as peut-être pas intérêt à acheter un frigo, le déménager, lui faire 100 km, réacheter un nouveau frigo, etc. Donc, dans ce cas-là, on a une solution de location. Et donc, on est bien dans l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se poser la question de est-ce que la location, c'est mieux que l'achat. Il faut se poser la question de quel usage tu attends. Et en fonction de ça, nous, notre job, moi, mon job, c'est de développer des services pour répondre à ces usages.
Donc, finalement, c'est aussi beaucoup du conseil.
C'est beaucoup de conseils, c'est beaucoup de
sensibilisation.
Il faut vendre les produits qui sont adaptés aux besoins des clients. On dit toujours l'innovation, c'est l'inverse de la durabilité. C'est pas vrai. Si tu as besoin de changer de téléphone aujourd'hui, il faut probablement que tu achètes un téléphone 5G parce que sinon, tu es sûr que dans 2 ans, il faudra que tu le changes parce qu'il ne sera pas compatible 5G. Tu vois. Donc, en fait, le investir par exemple dans des produits un peu innovants, technologiques, c'est quelque chose qui est très bien aussi parce que du coup, tu vas les garder plus longtemps parce qu'ils vont être obsolètes moins vite. Je parle technologiquement, en termes de logiciel, en termes de performance.
Et quels sont les prochains enjeux pour Fnac Darty?
Alors nous, les enjeux, ils sont importants. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie d'aider les Français, nos clients, mais même au-delà de nos clients, nos partenaires, on parlait des industriels, à faire cette transition vers une consommation plus durable et plus responsable. Et ça suppose, on en parlait tout à l'heure, de revoir un petit peu aussi nos modèles de fonctionnement. Pousser au volume, vendre toujours plus de produits, c'est probablement pas la solution. Et on a aussi une opportunité, du coup, de changement de modèle économique pour aller, comme on disait, on parlait de location, de l'économie de la fonctionnalité, développer des services qui permettent de garder ces produits plus longtemps, par exemple. Est-ce qu'on n'aurait pas un service, je paye quelques euros par mois, et du coup, dès qu'un produit tombe en panne, j'appuie sur un bouton, j'ai un technicien qui vient en 24 heures réparer mon produit chez moi.
À pied ou en trottinette?
À pied ou en trottinette. on a eu cette discussion-là, comme on l'a tous les deux, là, et en fait, on a décidé de le faire. Alors, donc, on a lancé un service qui s'appelle Dartimax, et donc c'est un service d'abonnement à la réparation. Vous vous abonnez, Et si votre produit tombe en panne, ben vous pouvez réellement en un clic, hein, c'est un bouton, hop, on vous rappelle, et on va essayer de vous dépanner par téléphone aussi, parce qu'il y a, mais si jamais ça marche pas, ou par visio, et si jamais ça marche pas, on vous envoie un technicien. Et ça, vous n'avez rien à payer, c'est aussi longtemps que les produits sont réparables, donc on répare des produits qui ont 10 ans, qui ont 15 ans, et ça a deux effets. Premier effet, c'est bah, ça allonge la durée de vie des produits, parce que si c'est hyper simple, si c'est plus facile de réparer que de remplacer, bah, les gens ils vont préférer réparer. Et le deuxième effet, c'est que ça crée un nouveau modèle économique, puisqu'il y a un revenu par abonnement, donc vous allez payer tous les mois. Nous, du coup, ça va faire des revenus tous les mois, ce qui nous permet de développer cette activité de réparation, d'embaucher. On a 500 techniciens qu'on cherche. On a annoncé un recrutement. Voilà, donc on recrute.
Si vous nous écoutez.
Exactement. Donc si vous cherchez un job, c'est un métier passionnant. On va chez les clients, on répare des produits. Enfin, c'est vraiment un job. Et on est prêt on forme les gens hein, pour qu'ils deviennent techniciens. Donc on recrute, on crée de l'emploi. Et tout ça fait que, ben, petit à petit, notre modèle pivote un peu vers cette économie de la fonctionnalité, vers une économie plus circulaire. Et notre ambition, je ne sais pas, est-ce que ça va prendre 3 ans, est-ce que ça va en prendre 5, est-ce que ça va en prendre 10, on n'en sait rien, mais que quelque part, on ne dépende plus uniquement de la vente de produits neufs, mais qu'on dépende aussi de toute cette activité liée à l'économie circulaire, la réparation, les produits d'occasion. Et on fait des investissements aujourd'hui, le groupe, dans cette direction-là, que ce soit chez Fnac ou chez Darty.
Bon, t'en as encore pour 15 ans, alors, hein, je pense. Hein.
Ah, j'espère.
Tu rempiles.
En tout cas, je rempile pour 15 ans. En tout cas, dans cette direction-là, c'est passionnant.
Merci, Régis.
Merci.
Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.